Alors, on vous a demandé de intervenir aujourd'hui 45 minutes pour nous parler de vivre avec le temple.
Vivre à Jérusalem à l'époque du Temple.
Exactement.
Ça demande énormément de développement.
Donc, on a rajouté 1h30 de cours.
Très intéressant. Pour tout vous dire, je voudrais vous rappeler un enseignement de Manitou qui disait que si on donne à quelqu'un à lire la Torah, quelqu'un qui n'a jamais lu la Torah, on lui dit voilà, tu prends ce livre, tu me le ramènes dans une semaine, et tu me dis ce que, de manière très succincte, ce que tu as lu. Et bon, alors, le personnage prendra le livre et il dira, j'ai lu que Dieu a créé le monde et que dans le monde qu'il a créé, il a créé l'homme et que l'homme a donné l'humanité, que l'humanité l'humanité s'est organisée en nations, que parmi toutes ces nations, le Créateur en a élu une, qu'il a fait sortir de l'esclavage, à qui il a donné la Torah, afin d'entrer en Eretz Israël pour y construire le Beth Amikdash. Voilà. C'est à peu près ça un résumé succinct du récit de la Torah. Maintenant, si on demande de raccourcir un peu plus, dit voilà, votre réponse, monsieur, est intéressante, mais c'est un peu long. Alors il dira, d'accord, je vais résumer. Dieu veut un temple. Voilà. C'est, on peut dire que c'est le résumé le plus concis possible de l'ensemble du récit de la Torah. Maintenant, si on réfléchit un peu plus, qu'est-ce qui intéresse le bon Dieu dans cette histoire? Parce que finalement, c'est son intérêt. Alors, on peut dire, on peut se rapporter et se référer à un midrash dans le Yalkut Shimoni qui nous dit qu'avant la. Alors, ce que je vais vous dire est absolument incroyable. C'est-à-dire, ça suppose, ça soulève un ensemble de questions métaphysiques que nous n'allons pas résoudre. Il est dit dans le Midrash que avant la création du monde, Dieu avait construit pour lui une souka, une cabane. Où est-ce qu'il l'a construit? Eh bien, il l'a construit dans le mont du Temple, Harabait, et il y rentrait pour faire sa prière. À qui priait-il? Ben, il priait à lui-même. Il disait que ce soit un effet de ma volonté que mes enfants construisent pour moi une maison dans ce lieu. Alors évidemment, si on est un tout petit peu logique, ça pose au moins une quinzaine de questions. Ça veut dire quoi avant la création du monde? Et puis s'il y a la création du monde, il n'y a pas encore de lieu du temple. Et comment est-ce que Dieu pourrait rentrer dans une souka? C'est absolument ridicule. Et puis pourquoi il s'adresserait à lui-même des prières? Et puis est-ce qu'il a besoin de sa créature? Toutes ces questions, ce sont des questions évidentes pour tout philosophe, mais nous n'allons pas les résoudre. Ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est qu'en fait, le Créateur est intéressé à ce qu'il y ait entre lui et l'homme un lieu de rencontre. En fait, c'est exactement ce que dit le terme Ve'asuli Mikdash, ils me feront un Mikdash. Or, Rashi nous explique c'est quoi Mikdash? Bayit shel Kedusha, une maison où la sainteté est possible. C'est-à-dire, c'est le lieu de la rencontre entre le Créateur et la créature. Bon, alors, si c'est tellement important ce que je vous dis là, immédiatement se pose la question de savoir, mais alors pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Si c'est tellement important pour Dieu, comment a-t-il pu permettre que le temple ne soit pas quelque chose de permanent? À tel point même que le Midrash nous dit que Dieu a montré au premier homme l'ensemble des générations et lui a dit, il lui a montré le temple détruit et construit et détruit et construit. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose d'ontologique. Il y aurait on va dire une nature intrinsèque du temple d'être parfois construit et parfois détruit. Donc nous avons des moments dans l'histoire où Israël vit autour de son temple, et il y a des moments dans l'histoire où le peuple d'Israël vit sans le temple. Il y a certainement une signification à cela. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de dynamique historique qui fait que aucun temple ne ressemble à l'autre. Le premier des temples que nous avons connus dans notre histoire, c'était le tabernacle dans le désert. Et puis après, il y a eu le tabernacle de Shiloh. Et puis après, il y a eu le premier temple, vous voyez qu'il vient déjà en troisième place. Et puis après, il y a eu le deuxième. Et il y aura très bientôt, Bezrat Hashem, le troisième. Mais à chaque fois, et ça c'est aussi assez intéressant de voir, la structure, disons, architecturale du temple n'est pas la même. C'est la seule mitzvah dans la Torah où, a priori, on nous dit que la forme de la mitzvah change en fonction des générations, et ceci évidemment par l'intervention des prophètes qui, eux, nous disent, voilà, vous avez construit comme ça, mais maintenant il faut construire autrement. Alors, tout d'abord, on pourrait dire une des caractéristiques les plus... Ah, ça va très bien vous dire, là, c'est comme une pulsation vers une dynamique évolutive. Ça, c'est très bien. Et donc, une des choses les plus évidentes, disons, le champ, l'horizon, l'espace mental qui nous habite quand il y a un temple et quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de temple, c'est donc que nous sommes en exil. Et alors là, nous vivons repliés sur nous-mêmes. Nous vivons une vie de ghetto, une vie dans laquelle tout se concentre en fin de compte autour de la table du Shabbat d'un bon juif. Mais finalement, c'est la vie familiale, au grand maximum la vie communautaire, qui est importante pour les enfants d'Israël pendant le temps de l'exil. Mais à partir du moment où Israël revient à sa terre, et à plus forte raison quand cela se concrétise à travers le temple de Jérusalem, alors il y a une portée universelle. C'est alors que nous nous mêlons de tout. C'est à partir de ce moment-là que des choses qui n'étaient pas importantes pour le juif deviennent importantes. Pendant le temps de la galoute, alors il était important pour un juif d'avoir une table de Shabbat, que la nourriture soit cachère, qu'il y ait un mikvé pour la pureté familiale, qu'il y ait une maison d'études et une synagogue, et même un cimetière. Tout ça, c'était très important. Mais il n'y avait pas d'importance à la culture générale. C'était un hobby pour certains, certains y voyaient un danger. Il n'y avait pas d'importance à l'économie universelle, aux problèmes militaires, à l'agriculture, à l'écologie. Tout cela, on le laissait pour les goyim. Mais à partir du moment où il y a un temple, Israël remplit une fonction par rapport à la communauté internationale et on pourrait dire même une fonction cosmique. À ce propos, je voudrais vous citer Flavius Josèphe. Flavius Josèphe, qui raconte dans la guerre des Juifs contre les Romains, comment il a vu de ses propres yeux la destruction du temple. Nous avons, disons, un compte-rendu par un des plus grands journalistes de l'histoire, Flavius Josèphe, Yosef ben Matityahu, qui est présent avec l'armée romaine au moment où le temple est détruit et qu'il flambe. Et il raconte tout cela donc dans son livre, et au milieu du récit, il se lamente. Bon, c'est un juif quand même. Donc pour lui, et c'était d'ailleurs un Cohen, il avait lui-même pratiquer le culte des sacrifices dans le temple de Jérusalem dans sa jeunesse, et maintenant il voit tout cela qui monte en flammes. Et c'est là qu'il raconte que c'est très malheureux que ce temple ait été détruit parce qu'il était célèbre dans le monde entier, et que des goyim venaient lors de la fête de Soukhot par dizaines de milliers pour participer à ce qui se passait dans le temple. C'est-à-dire qu'il y avait une influence universelle du judaïsme sur le monde entier à travers ce qu'on pouvait appeler l'adresse. C'est-à-dire si on se demande où est-ce qu'il est présent, où est-ce qu'on peut rencontrer le Dieu des enfants d'Israël, eh bien on le rencontre à Jérusalem. Il a un lieu, il a un domicile, pourrait-on dire. Et tout cela a disparu. Et là, je voudrais amener un témoignage d'un Romain. Je parle ici de Pline l'Ancien. Il y a deux Plines, Pline le Jeune et Pline l'Ancien. Pline l'Ancien raconte sa visite en Eretz Israël. Et il signale là-bas trois phénomènes qui l'ont très fortement inspiré. Le premier, c'est qu'il a vu, il y a là-bas une mer dans laquelle on ne peut pas se noyer. Il parle de la mer morte. Et il y a également un jour où personne ne travaille, le Shabbat. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Avant le christianisme et l'islam, qui ont emprunté ça au judaïsme, personne dans le monde entier ne pensait qu'il pouvait avoir un jour de congé hebdomadaire. Et donc Pline l'Ancien en est complètement émerveillé. Et puis ils ont un temple dans lequel il n'y a pas de statue. Et ça, c'était pour lui révolutionnaire. Donc vous comprenez que le fait même de l'existence du temple fait que nous avons automatiquement un message universel, et ça explique également les fluctuations qu'il y a dans le peuple juif par rapport à la culture générale. Je voudrais vous citer ici un petit passage du livre Oroth du Rav Kook, dans Oroth Atria, dans le chapitre Tetvav 15. Je vais le lire, mais très rapidement, en sautant quelques lignes. Je vais le traduire, évidemment, de l'hébreu au français. Keshekoach Israël Gadol Venishmato Meira Bikirbo Beofa, lorsque la force d'Israël est grande et que son âme l'illumine de manière évidente, Bikdusha Biyichud Uvivracha, en sainteté, unité et abondance, Bemikdash Umemshala, lorsqu'il y a un temple et un pouvoir politique, Binvua Vechochma, qu'il y a des prophètes et de la sagesse. C'est alors que l'expansion vers les choses profanes, les inugé achushim aruchaniim vagashmiim, aux délices des sens spirituels et matériels, les atzatzah hadirim ufnimit les tochayem shelamon amim ulumim shonim, et la contemplation pénétrante dans la vie d'une multitude de peuples et de nations, les mif'aleem visifruyotehem, dans leur production et leur bibliothèque, itgabrut ozachaim ativiim, le renforcement de la vie naturelle, kol ele tovimem, tout cela est bien. C'est-à-dire, nous ne craignons rien. Non seulement nous ne craignons rien, mais nous nous relions à la culture universelle. Et le Rav Kook nous dit, cela ressemble à ce qu'on appelle le Troum Shabbat. Le Troum Shabbat, c'est-à-dire il y a une distance que l'on n'a pas le droit de dépasser en dehors de la ville le jour du Shabbat. Et cette distance, du point de vue de la Torah, c'est 12 milines. Le mil, c'est-à-dire 960 mètres. Donc c'est environ 11 kilomètres. On a le droit de sortir de la ville et de marcher 11 kilomètres, mais pas plus. Mais les rabbins, à l'époque du deuxième temple, ont restreint cette limite, et c'est devenu Alpaï Mama, 2000 coudées seulement. Et tout cela pour nous dire que lorsqu'il y a un temple, alors nous avons un horizon extrêmement large de culture, tandis que quand nous n'avons pas de temple, nous nous retrouvons dans ce judaïsme replié sur lui-même. Et donc, la conscience immédiate d'un juif qui vit à l'époque du temple à Jérusalem, c'est justement ce sentiment d'appartenir à l'universel. Quelqu'un vient de me demander en chat, mais qu'en est-il de la fonction cosmique? Alors ça, c'est encore plus fort. Parce que la fonction cosmique, ça se révèle à travers les sacrifices. Pour le moderne, le sacrifice est quelque chose d'extrêmement bizarre. Ce n'est pas qu'on ne mange pas de viande, mais on laisse l'abattage dans les abattoirs. Transformer l'abattoir dans le lieu ultime de la sainteté, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour un moderne, qu'il soit d'ailleurs juif croyant ou pas. Mais En fait, tout cela nous vient du fait que nous ne ressentons pas aujourd'hui ce qui était évident à l'époque du temple, c'est la solidarité entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, le désir de me présenter devant l'Éternel, mais au lieu de me présenter moi-même, je vais amener un animal, et cet animal sera mon délégué, si vous voulez. Mais l'animal, lui, n'y comprend rien. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour être égorgé et présenté sur l'autel? Eh bien, c'est parce que moi et la bête, le genre humain et l'ensemble de la vie terrestre, nous formons une seule entité. Et si vous voulez, pour concevoir un peu ce que ça veut dire, imaginez par exemple que quelqu'un ait volé avec sa main. Alors, on va le punir et lui dire de payer telle et telle somme. Il dit oui, mais vous avez qu'à demander le paiement à ma main, mais pourquoi vous me demandez à mon compte en banque? Mais c'est évident, le compte en banque et ma main appartiennent à la même personne. Eh bien, on peut dire l'animal et l'homme, en fait, sont une seule et même entité. Il n'y a pas que l'animal, on présente également des végétaux sur l'autel, mais on présente également des minéraux, du sel et de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, on est lié à l'ensemble des êtres. Il y a également une présence des mondes supérieurs dans le temple. Il y a l'encens qui est présenté. Il y a la lumière qui est allumée sur la menorah. Il y a le pain qui est présenté sur les tables de proposition. Tout cela veut dire qu'en fait, nous vivons dans un monde d'harmonie, un monde d'unité. Et donc, de ce point de vue-là, la vie à l'époque du temple est beaucoup plus intense que à l'époque où il n'y a pas de temple. Et donc, c'était un temps heureux. Alors vous allez me dire, oui, un temps heureux, mais quand on lit un peu ce que la Bible nous raconte à l'époque du temple et ce que Flavius Josèphe à l'époque du deuxième temple nous raconte, la vie n'était pas rose, évidemment. Elle n'était pas rose, mais elle était intense. Il y avait une très grande intensité de vie. Et là, nous devons comprendre un peu, disons, cette intensité de vie, elle s'exprimait de différentes manières. Il y a une différence, par exemple, entre l'intensité de la vie à l'époque du premier temple et celle du deuxième. Le Talmud nous dit que la présence de Dieu était évidente à l'époque du premier temple et qu'elle n'était pas aussi évidente à l'époque du deuxième. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien. Le sacrifice de l'animal remplace celui de l'homme? Oui, bien sûr. Attendez, attendez. Jump to the latest. Au temps du temps, ou maintenant la vie est sacrée? Non. Disons que le sacrifice n'est pas un assassinat. Le sacrifice, c'est, comme dit la Torah, korban, un rapprochement. Alors, on pourrait se tromper et penser que l'homme devrait se présenter lui-même, c'est ce qu'on appelait les sacrifices humains, qui étaient le culte des barbares à l'époque de l'Antiquité et que la Torah a supprimé. Mais quand on parle des sacrifices, si un homme était, chas v'shalom, présenté sur un autel, ça veut dire que l'homme n'est qu'une bête. Et donc la Torah a interdit de faire de l'homme une bête, mais l'homme doit avoir cette intention, ce désir de se rapprocher du Créateur, et il pourra donc se concrétiser à travers un animal. C'est tout à fait normal, c'est une chose qui a été complètement oubliée par la modernité. Je crois, oui, c'est ça. Il y avait encore ici quelqu'un? Non, non, c'est très bon. A-t-on des sources de cette présence divine en dehors des sources juives? Pourquoi les Français n'étaient pas au courant de cette hyperprésence? Les Français, à l'époque du premier temple, n'étaient pas encore nés. Il y a effectivement ce sentiment très net. C'est ce qui s'est passé lorsque le premier temple a été détruit. Lorsque le premier temple a été détruit, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire dans le monde. D'abord, chez nous, les enfants d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle l'exil de la Shekhina, l'exil de la présence divine. Et puis, il y a également, à la même époque, dans le monde entier, apparaissent deux phénomènes qui viennent remplacer la Shekhina. d'une part la philosophie classique en grec, et d'autre part les religions dans le monde entier. Et ça, c'est assez surprenant parce que ça veut dire que l'humanité a ressenti un vide spirituel qu'elle a essayé de remplir soit par l'intellect, ce qui a donné la philosophie, soit par le sentiment, ce qui a donné les religions. Et donc, on pourrait dire que le meilleur témoignage de ce que la prophétie a existé, c'est qu'elle a cessé d'être et que cette cessation a été ressentie par le monde entier. Donc, quand vous demandez si nous avons des témoignages de la présence de la Shekhinah, évidemment. D'ailleurs, il n'est pas surprenant qu'à l'époque du deuxième temple est apparue une religion dans le monde qui nous a accusés d'avoir tué Dieu. Parce que ils ont ressenti à ce moment-là que quelque chose était en train de disparaître dans le divin et que c'était lié à l'histoire du peuple juif. Alors, de manière confuse, ça a été traduit à c'est eux qui ont tué Dieu. Vous comprenez? Bon, ça donc, il y a quand même des restes. Pourquoi le rapprochement avec Dieu ne passerait pas par l'intellectuel ou le ressenti? Tout simplement, pour une raison très simple, c'est que le judaïsme est monothéiste. Et comme le judaïsme est monothéiste, il connaît Dieu à travers l'ensemble des dimensions de l'être et non pas seulement à travers le spirituel ou seulement le matériel ou seulement le ressenti, etc., etc. Il y a une exigence d'unité, d'où la nécessité qu'il y ait également une sainteté du lieu, une sainteté de la pensée, une sainteté du temps, etc. Donc vous avez pour ça le Shabbat, le Beth Amikdash, le peuple d'Israël, qui sont des témoignages de la capacité de sanctifier l'ensemble des manifestations de l'être. Donc, qu'est-ce qu'il nous... À part ça, il y a également quelque chose qui était vécu à l'époque. C'était par exemple la vie économique était réglée en fonction de deux événements très importants, la Shemitah, l'année sabbatique, et le Yovel, le jubilé. Et il y avait tout un cycle économique qui était influencé directement par la Shemitah, le fait qu'une fois tous les 7 ans, on ne travaille pas la terre, qu'une fois tous les 50 ans, les terrains reviennent à leurs propriétaires, mais même pendant chacune des années, le fait qu'une grande partie de la production agricole dans une société qui était majoritairement agricole, une grande partie de cette production arrivait chez les Kohanim, chez les Lévim, chez les prêtres. Et tout cela était pris en compte par les économistes des rois de l'époque. De nos jours, qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça? Eh bien, il nous reste la cérémonie assez bizarre qui est d'enlever ce qu'on appelle Troumot Umeasrot. Quand vous habitez en Israël et que vous ramenez 1 kilo de bananes du supermarché, alors vous arrivez à la maison, vous mettez les bananes sur la table et vous cherchez l'endroit qui est un peu abîmé. Et vous coupez cet endroit, vous prononcez une sorte de formule magique, et avec grande piété, vous mettez ce résidu de banane dans un sachet de plastique que vous jetez pieusement dans la poubelle. Donc, ce que ça signifiait à l'époque n'a presque rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Nous continuons malgré tout ce culte parce que nous savons qu'un jour, ça va redevenir important et même encore plus grand. Qu'est-ce qu'il nous reste du jubilé? Alors, le jubilé, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Vous vous rendez compte, tout l'immobilier revenait à leur propriétaire originel d'il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste de ça? La sonnerie du shofar à la sortie du jeûne de Kippour. Une coutume qui vient nous rappeler le jubilé. Mais finalement, c'est devenu du folklore. C'est quelque chose, disons, vous savez, il y a des juifs qui ne viennent à la synagogue qu'une fois par an pour entendre le shofar à la fin de Kippour. Mais en fait, tout cela, ce n'est finalement que un petit résidu folklorique de quelque chose qui était véritablement vécu dans l'ensemble de la vie. De même, il reste aussi un élément du rituel. Vous allez vous dire, tiens, tiens, dans le sidour, dans le rituel de prière, vous savez qu'on ne prononce pas la même formule en hiver et en été. En hiver, on demande la pluie. En été, on demande la rosée. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on demande la pluie? En Eretz Israël, on demande la pluie 15 jours après la fin de la fête de Soukhot. Ça, c'est très bizarre, parce que On a déjà mentionné la nécessité de la pluie à la fête de Soukhot même, mais quand on vient demander la pluie, on attend 15 jours. Pourquoi? Le Talmud nous dit, c'est pour que le dernier de ceux qui sont montés au temple de Jérusalem pendant la fête aient le temps de revenir à la maison et que leur voyage ne soit pas encombré par la pluie. Alors, vous vous rendez compte ce que c'était à l'époque? C'était des millions de Juifs venaient pour la fête et se rencontraient à Jérusalem. Il y en a qui venaient même d'en dehors d'Israël. Il y avait des communautés juives, malheureusement, en dehors d'Israël, en Babylonie, en Égypte, à Rome même. Et c'était un moment de rencontre. Vous vous rendez compte? À l'époque, on vivait de manière extrêmement repliée sur soi-même. Il était très rare que quelqu'un passe sa vie au-delà de 40 km autour de sa maison. Et puis, là, vous avez des Juifs qui viennent. Certains viennent de la Galilée, certains viennent du Chomron, d'autres viennent de la Judée. Et tous se rencontrent en route. Et quand ils se rencontrent en route, ils font, par exemple, pour amener les prémices, ils font une sorte de défilé avec un taureau à leur tête dont les cornes sont recouvertes d'or. Et ils sont salués par tous les villages qui les rencontrent. Et c'était un moment où le peuple d'Israël apprenait qu'il y avait en dehors de chez lui encore d'autres Juifs. Sans parler évidemment de ce que Flavius Josèphe témoigne, des goyim qui venaient. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment de solidarité entre les Juifs beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Juifs se rencontrent à la synagogue. Mais la synagogue, ma synagogue est d'aller dans mon quartier. Elle n'est pas la synagogue de l'autre quartier. Donc on peut dire la synagogue qui vient remplacer d'une certaine manière le culte du temple, en fait la synagogue d'une certaine manière divise les Juifs. D'ailleurs, il y a des divisions même à l'intérieur de la synagogue. À l'époque du temple, il n'y avait pas de synagogue, ou en tout cas les synagogues servaient à autre chose. Elles servaient à l'étude de la Torah et à l'étude et à la lecture de la Torah. Mais les prières ne se faisaient pas en public. Et si on voulait vraiment prier l'Éternel, eh bien, on se rendait au temple de Jérusalem et c'est là qu'on faisait la prière. Le roi Salomon, lors de l'inauguration du temple, a dit lui-même qu'il demande à Dieu que même l'étranger qui viendrait de loin pour te prier, pour t'adresser sa prière dans cette maison, tu exauceras tout ce qu'il te demandera. Ve'asita kechol asher yomar anochri. Tu feras tout ce que te demandera l'étranger. J'ai eu le mérite de connaître un Noachide, un fils de Noé, donc un non-juif, du nom de Günther Gottschalk. C'était un Allemand qui, après la Shoah, a compris la gravité de ce qu'avait fait l'Allemagne et qui a décidé de consacrer sa vie au peuple juif. Il m'a raconté qu'il lui arrive de se rendre au Kotel. Le Kotel, c'est ce qui nous reste. Et il m'a dit, et là je demande à Akadosh Baruch Hu, je lui dis, tu as promis que tu exaucerais la prière de l'étranger qui viendrait dans ce lieu. Alors je suis venu te demander que tu me donnes la force de bénir ton peuple. Vous vous rendez compte l'impact que ça a sur l'ensemble de l'humanité. Je parle ici d'un individu que j'ai eu le mérite de connaître de nos jours. Il y a Bon, je voudrais rentrer maintenant un peu plus dans le détail de la différence qu'il y a entre le premier temple, le deuxième et le troisième. Le premier temple, on peut dire, était d'un niveau très élevé. Le deuxième, moins. Et le troisième, encore plus que les deux. C'est donc une asymétrie. Je vous rappelle qu'on avait parlé de l'intensité de la vie à l'époque du premier temple. L'intensité de la vie produisait deux phénomènes. D'une part, il y avait des prophètes. C'est-à-dire, à l'époque du premier temple, vous vous promenez sur la terre d'Israël et un peu partout, vous découvrez un prophète par-ci, un prophète par-là. Par exemple, le Talmud nous dit que le prophète Yona, que vous connaissez de l'après-midi de Kippour, le prophète Yona, pour prophétiser, se rendait lors des festivités de la fête de Soukhot. Il se rendait dans le temple de Jérusalem, et c'est là qu'il a été inspiré et qu'il est devenu prophète. Mais vous savez, il y a dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé un tesson, plusieurs tessons de terre cuite. À l'époque, il n'y avait pas de papier, de papier pour écrire. Alors les gens écrivaient sur des tessons de terre cuite. On a retrouvé dans la région de Lachish une correspondance entre le commandant de la place forte de Lachish et le chef de l'armée judéenne à Jérusalem, au temps du roi Josias, Yehoshiaou. Et il lui raconte qu'est-ce qui se passe, il donne un compte-rendu de ce qui se passe sur la place. Il dit, voilà, il nous reste tant et tant de provisions, nous avons de l'eau pour tenir s'il y a un siège, nous vous observons de loin les mouvements des forces ennemies, ils font ceci, ils font cela, et le prophète dit telle et telle chose. C'est-à-dire, ce que dit le prophète fait partie du compte-rendu de routine, pourrait-on dire, de la place forte de Lachish. Donc c'était un monde assez particulier. Si vous aviez un problème, par exemple un problème de santé à l'époque du premier temple, avant d'aller chez le médecin, on allait d'abord chez le prophète. On disait, Monsieur le prophète, je suis malade, j'ai ça et ça et ça. Mais pourquoi? Et le prophète dit, bah parce que tu as un problème que tu dois régler, par exemple, avec ta femme, avec ton voisin, etc. Et si le problème restait, alors on allait voir le médecin. Ça, c'est le premier phénomène qu'il y avait à l'époque du premier temple, mais il y avait également un autre phénomène. Il y avait les fautes les plus graves de la Torah. Il y avait de l'idolâtrie, de l'homicide, de la débauche, et tout cela parce que les forces de vie étaient très grandes. Quand la force de vie est très forte, puissante, alors elle est employée soit en bien et alors on devient prophète, soit en mal et alors on devient assassin. À tel point que, à l'époque du deuxième temple, les Juifs ont prié, avec Ezra à leur tête, pour que cette capacité de prophétiser disparaisse, pour qu'il n'y ait plus également le désir de l'idolâtrie en Israël. Alors ça vous a donné l'époque du deuxième temple. L'époque du deuxième temple est dominée donc par l'intellectuel, c'est vrai. C'est la période de la pureté religieuse, mais il n'y a plus cette présence de la Shekhinah. Et le Ra'abad, Rabbi Avraham ben David de Poskier, l'opposant de Maïmonide, nous dit que Ezra avait construit un temple disons, en veilleuse. C'est-à-dire que ce qu'ont demandé les Juifs à l'époque, ce qu'a fait Ezra, il a établi un temple avec une sainteté réduite. Cette sainteté réduite était nécessaire pour arriver à une sainteté encore plus grande. Ça n'a pas réussi, le deuxième temple a été détruit, comme vous le savez, et nous attendons le troisième. Mais qu'est-ce qu'il y aura au troisième? Eh bien, si à l'époque du premier temple, c'était l'identité collective qui était très forte, c'était comme ça que c'était ressenti, mais au niveau individuel, la sainteté était déficiente, à l'époque du deuxième temple, c'était la sainteté individuelle, Kdushat HaPrat, mais l'identité collective était, elle, déficiente. C'est pour ça qu'il y a eu des divisions terribles à l'époque du deuxième temple, Sinat Chinam, la haine gratuite. Et donc, si chacun des temples, l'un représente le klal et l'autre le prat, comme vous savez, dans le judaïsme, il y a une exigence de relation, de synthèse entre les deux. Klal, Shehu Tzarich Liprat, Prat, Shehu Tzarich Liklal. C'est-à-dire, le collectif a besoin de l'individuel et l'individuel a besoin du collectif. Et donc, le troisième temple sera donc une synthèse dans laquelle nous retrouverons l'ensemble des saintetés, le klal et le prat, et selon la formule mathématique bien connue qui est que 1 plus 2 égale 3. C'est-à-dire, si vous prenez les deux éléments de ce qu'était le premier temple et le deuxième temple, vous arrivez au troisième. Ça nous explique un enseignement assez bizarre, a priori, que nous trouvons chez les Baaleha Tosfot d'Angleterre. Vous savez qu'il y avait des Tosafistes en France, évidemment, mais il y a eu une époque où il y a eu des Tosafistes en Angleterre. Et chez ces Tosafistes d'Angleterre, ils ont écrit dans le traité de Sanhédrin, dans la dernière page, que le troisième temple durera 830 ans. Tiens donc, bizarre. Et alors, il sera détruit après. Ah non, on va pas construire pour détruire. Mais 830, vous avez remarqué, ça fait 410 plus 420. 410, c'est le nombre des années du premier temple. 420, je ne sais pas si c'est vraiment vrai historique, mais dans les Midrashim, c'est la durée de l'époque du deuxième temple. Ça vous donne en tout 830. Ce qui veut dire, en fait, ce que voulaient dire ces sages d'Angleterre, c'est que, en fait, le troisième temple est la synthèse des deux premiers. Mais la question qui se pose, si le temple est parfois détruit, c'est qu'il n'est pas adapté au monde. Mais viendra un temps où le temple et le monde seront en unité, et donc il ne sera pas détruit. Cette intuition a existé dans un certain groupe de pensée que vous connaissez certainement. Je parle ici des conventionnels de la Révolution française, lorsqu'ils ont fondé le culte de l'être suprême pour remplacer le christianisme. Et dans la formulation du culte de l'être suprême, ils ont écrit que l'être suprême a deux attributs qui sont la vérité et la vertu, et que son sanctuaire, c'est le monde. Psst, intéressant. C'est-à-dire, ils ont pensé que l'idée qu'il y ait un temple doit se greffer sur l'ensemble de la création. Alors évidemment, ça a donné des massacres. Ils ont perdu la tête, aussi bien au sens figuré qu'au sens pratique. Mais cette idée, c'est ça qui les a amenés d'ailleurs à supprimer la semaine et dans le calendrier révolutionnaire, il y avait la décade. C'est-à-dire cette idée qu'on allait sortir du temps du septième jour, qui est le temps de l'histoire, vous connaissez les enseignements de Manitou à ce propos, pour entrer dans un monde dans lequel il y aurait, ils ont été peut-être inspirés par la Kabbale, une illumination des 10 paroles qui ont créé le monde, donc ils ont créé la décade. En tout cas, est-ce que cette idée, de manière morale et pure, se retrouve chez nos prophètes? Oui, la réponse est que ça se retrouve chez nos prophètes, essentiellement chez un des derniers petits prophètes. Je parle ici de Zécharia, Zacharie comme on dit en français. Et voici ce qu'il dit dans le dernier verset de son livre. Ve'haya kol sir birushalayim uvi'uda kodesh l'Hashem tsevaot. Et toute marmite à Jérusalem et en Judée sera sanctifié pour le Dieu des armées. Uva'u kol azovechim ve'lakechu mehem uvishlu behem. Et tous les sacrificateurs viendront pour s'en servir et y cuisiner. C'est quoi cette histoire? Vous savez que quand on fait un sacrifice, le sacrifice doit être fait dans le parvis du temple. On ne peut pas faire ailleurs. D'accord. Et on reçoit le sang de l'animal, on le reçoit dans un ustensile sacré appelé Mizrak. Et viendra un temps, dit le prophète, il y aura tellement de sacrificateurs qu'on n'aura pas assez de ces ustensiles. On prendra toutes les marmites qui se trouvent à Jérusalem. Et on se verra également toutes les marmites qu'il y aura en Judée. Si on réfléchit bien à ce que ça veut dire qu'en fait, le parvis du temple, la sainteté du temple, s'étendra à l'ensemble de Jérusalem. Et que donc la sainteté de Jérusalem s'étendra à l'ensemble de la Judée. Et que la sainteté de la Judée s'étendra à l'ensemble d'Eretz Israël. Et que la sainteté d'Eretz Israël s'étendra au monde entier. C'est-à-dire, dans la représentation que donne le prophète, c'est comme une tache d'huile, en fait. C'est-à-dire ce qui, pour l'instant, est réservé à l'intérieur du temple, c'est-à-dire si vous voulez ressentir la sainteté du temple de Jérusalem, vous devez y rentrer, eh bien viendra un temps où cette sainteté va s'épancher sur l'ensemble du monde. À tel point que, alors là nous avons ici un autre verset, assez surprenant, Bayom Ahou, en ce jour-là, Yé al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Il y aura sur le front des chevaux saint pour Dieu. Sur le Metzilot Asus, c'est un ornement que l'on mettait sur le front des chevaux. Et sur le front des chevaux seront écrits les deux mots Kodesh Lachem. Or, ces deux mots sont écrits sur le diadème en or du grand prêtre. C'est-à-dire le Kohen Gadol, parmi les vêtements sacrés qu'il portait, Eh bien, il portait un diadème, et sur ce diadème, il était écrit Kodesh Lachem. C'est-à-dire, c'est l'homme le plus saint du monde, et cette sainteté va s'étendre même sur les fronts sur les diadèmes des chevaux. C'est-à-dire, c'est une manière de dire qu'en fait, il y a une espérance d'adaptation à ce bonheur de la rencontre qu'il y a entre l'homme et Dieu. Ça va passer du temple à l'ensemble du monde. Il y a et là, on rencontre ici une idée extrêmement profonde, qui est que dans le temple de Jérusalem, il y a une rencontre entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est très différent de deux grandes civilisations que nous connaissons de nos jours. D'une part, la civilisation occidentale, et d'autre part, la civilisation islamique. La civilisation occidentale a hérité de la philosophie grecque cette idée que l'homme est au centre du monde. Et qu'en est-il de Dieu? Ah, s'il existe, mais s'il existe, il est dans la périphérie du monde, il ne doit pas trop gêner l'homme. On peut dire que dans cette conception des choses, le régime politique idéal, ça serait la démocratie libérale et l'individualisme. Pour le monde islamique, ce que je viens de dire est une hérésie extrêmement grave, parce que ça supprime la présence de Dieu du monde. Or, pour les musulmans, pour l'islam, c'est Dieu qui est au centre du monde, et l'homme doit se soumettre à Dieu. Mais qu'est-ce que nous enseigne la Torah? Bien, la Torah nous raconte que ce n'est ni Dieu, ni l'homme qui est au centre du monde, mais la rencontre entre eux, la participation entre le Créateur et la créature. Cette rencontre est appelée panim el panim, visage face à visage, face à face. Et ce face à face, il a un lieu. Ce lieu, c'est Jérusalem. Et donc, quand nous reconstruirons le temple, nous aurons cette expérience extraordinaire qui va permettre à l'humanité tout entière de se rencontrer chez nous. Parce que aussi bien la civilisation occidentale que la civilisation islamique pourront se rencontrer à travers l'enseignement d'Israël. Il y a, pour reprendre ici des images, disons plutôt philosophiques, l'époque du premier temple est un moment que le Rav Kook appelle la rencontre entre deux idées, l'idée avec un grand I dans le sens platonicien du terme, l'idée divine et l'idée nationale. Et à l'époque du premier temple, il y avait une correspondance, il y avait une adaptation entre ces deux idées. À l'époque du deuxième temple, il n'en est resté qu'un petit résidu, ce qu'on appelle l'idée religieuse. C'est-à-dire, la conscience religieuse est née à cette époque. Et puis, il y a également ce qui va se passer à l'époque du troisième temple, quand il y aura une synthèse de toutes les idées à la fois. Chez les kabbalistes, pour ceux qui aiment les métaphores des kabbalistes, c'est que le premier temple était l'expression de la séphira qu'on appelle Bina. Bina, qui est l'entendement, qui est ce qui est au-delà, c'est la relation entre l'infini et le temps, entre l'extratemporel et le temporel. Et puis, il y a à l'époque du deuxième temple, il y avait ce qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est-à-dire que le temple de Jérusalem était vécu simplement comme le lieu réunificateur de la nation d'Israël. C'était, si vous voulez, une sorte de pôle qui réunissait les Juifs. Et puis, lors du troisième temple, il y aura la séphira du Keter, c'est-à-dire de la couronne, qui va réaliser l'unité, la réunification des tensions au sein du monde, qui vont être l'expression d'un monothéisme intégral. Et ce monothéisme intégral va inclure l'ensemble des enfants d'Israël, l'ensemble des nations, l'ensemble de l'univers tout entier. Et donc la réconciliation entre le monde de l'absolu et le monde relatif qui est le nôtre. Et c'est ce sentiment d'unité qui va créer le bonheur ultime, qui va nous réunir tous ensemble très bientôt, vite et de nos jours, bimera be'amenu, ensemble dans la joie de Jérusalem, tous ensemble.
Amen.
Et donc que ce Tisha B'Av soit le dernier à être vécu de cette manière et que nous le vivons dans la joie.
Amen. Alors, vous n'avez pas du tout parlé du côté pessimiste des millions de morts, des guerres de Gog et Magog, de tout ça.
Il n'y a rien de pessimiste dans le judaïsme pour une raison très simple, c'est que les prophéties de malheur ne sont pas censées se réaliser si on fait teshuva. Donc en fait, tout est fonction des nécessités de l'achèvement de l'histoire, ne vous en faites pas.
Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette journée de nous rejoindre. On était plus de 1000 personnes avant entre YouTube et Zoom, Baruch HaShem. Merci énormément.